Écoutez local. Écoutez Liberté FM.
Je suis ravie de vous retrouver sur Liberté FM, le 96.1 pour la fréquence, libertéfm.fr aussi pour le site. N'hésitez pas à aller faire un petit détour, même un tour complet, et aller voir tout ce qui se trouve en matière d'information et plein d'autres choses. Et bienvenue dans Douceur Féminine. Alors on va voir ce matin comment faire le plein de vitamine B1 pour être en forme. Et puis surtout, où est-ce qu'on la trouve, cette fameuse vitamine B1? À quoi sert-elle? Peut-on en manquer? Et quels sont les signes liés à sa carence? On voit tout ça. Alors pour condenser notre affaire, la vitamine B1 dite thiamine est essentielle pour produire de l'énergie, faire fonctionner les muscles, et oui quand même, le système nerveux, soutenir la mémoire. L'organisme ne la stocke pas, il faut donc en consommer tous les jours par le biais de notre alimentation. Une carence de cette vitamine provoque des troubles du sommeil, de la fatigue et en cas de déficit sévère, une maladie grave dont nous allons parler aussi. Alors tout d'abord, vous l'aurez compris, le groupe B, c'est cette fameuse grande famille des vitamines dont on entend beaucoup parler. La fameuse B1, B3, B5, B6, B8, B9 et l'incontournable B12. Mais elles ont des rôles différents. La vitamine B1, ou donc son nom thiamine, comme la B2, B3, B5, B6 et B8, est importante pour la production liée à l'énergie. Elle joue ainsi un rôle dans le bon fonctionnement des muscles, mais aussi du système nerveux. Elle agit aussi au niveau de la mémorisation et des facultés intellectuelles. Cette vitamine est également connue donc sous le nom de thiamine et elle fait partie des vitamines dites hydrosolubles. Alors, pour la petite histoire scientifique, l'Organisation mondiale de la santé recommande tout de même un apport alimentaire quotidien d'1,1 mg pour ces messieurs et d'1,2 pour ces dames. Alors, cette carence en vitamine B1 ou thiamine est très rare, car les personnes mangent souvent et principalement des glucides raffinés, avec la farine blanche, le sucre blanc, le riz blanc. Celles souffrant d'anorexie, les grands buveurs de thé ou de café, ces deux boissons limitent l'absorption de la vitamine B1 et les consommateurs réguliers d'alcool et les personnes âgées sous-alimentées sont donc plus sujettes à ces fameuses carences. Donc, les premiers symptômes de la carence avec cette vitamine B1, ou donc thiamine, ne sont pas spécifiques et pas toujours identifiables. La personne en manque de vitamine B1 va être fatiguée, bah oui, ça rappelle beaucoup de choses, irritable, là aussi. Elle va se plaindre de troubles de la mémoire, de troubles du sommeil. Elle va également ressentir aussi parfois comme des coups d'aiguille au niveau de sa poitrine. Car l'organisme, ne sachant donc pas produire lui-même cette fameuse vitamine, il faut qu'il la trouve dans l'alimentation. C'est pourquoi, en cas de malnutrition sévère, va apparaître une maladie qu'on appelle beriberi. C'est une pathologie qui résulte de cette importante carence en vitamine B1, avec pour symptômes des troubles émotionnels, une altération des perceptions, des douleurs dans les membres, comme la sensation de brûlure pour les pieds, des douleurs aux mollets, une faiblesse musculaire, une irrégularité du rythme cardiaque, un gonflement des tissus, voire des nausées et même chez certaines personnes, des vomissements. Et puis, le fameux beriberi peut conduire aussi à souffrir d'une encéphalopathie de Gaillet-Werhick, un ralentissement psychomoteur, ataxie, trouble de la conscience, principalement chez les personnes souffrant cette fois d'alcoolisme. Car dans le cadre d'un sevrage à l'alcool, les patients ont donc un risque plus accru de souffrir de ce mal. La thiamine ou la vitamine B1 est alors recommandée, à titre préventif parfois, mais aussi à titre curatif. La vitamine B1, comme toutes les vitamines du groupe B, participe au fonctionnement normal du système nerveux. C'est pourquoi, en cas de déficience, on peut donc souffrir de troubles du sommeil, d'insomnie, car la vitamine B1 est aussi impliquée dans le métabolisme de la sérotonine, cette fameuse hormone du bien-être qui va favoriser l'endormissement. Et puis en cas de carence également, la dose peut être conseillée sous forme de comprimé, là il faut voir en pharmacie, cette dernière étant souvent couplée d'ailleurs à son amie la vitamine B6. Des effets secondaires peuvent être toutefois ressentis comme des démangeaisons, de l'anxiété, la transpiration. Les femmes enceintes doivent également veiller à ne pas prendre plus de 3 mg de cette vitamine par jour. C'est donc là aussi à surveiller. Alors, où trouve-t-on cette fameuse vitamine B1 ? Eh bien, réponse dans quelques instants, le temps tout de suite d'une petite touche musicale avec Hélène Segarra. Souvenez-vous.
fort, si fort, au point, je sais que tu pourrais mourir pour elle.
Segara avec son titre Elle, tu l'aimes sur Liberté FM.
Liberté FM, tout simplement.
Celles et ceux qui nous rejoignent sur le 96. Ou par le biais d'internet aussi, hein, sur libertefm.fr. Dans Douceur Féminine, on a commencé à parler de la vitamine B1 dite thiamine. Et après avoir vu qu'il en fallait, puisque en matière de santé, elle nous était bien évidemment nécessaire, puisqu'elle est essentielle pour produire l'énergie, pour faire fonctionner les muscles, le système nerveux et soutenir notre mémoire, on va voir à présent dans quoi on peut la trouver, parce que l'alimentation y fait pour beaucoup. Alors, on trouve cette vitamine B1 dans le son de riz, la graine de tournesol, le germe de blé, la graine de lin, la fameuse noix de macadamia dont on entend beaucoup parler, le filet de porc, la graine de pavot, le jambon blanc, le riz complet, notre ami incontournable, la patate alias la pomme de terre, ou bien encore la pistache. Mais aussi dans les fruits qui apportent cette fameuse vitamine B1. C'est le cas notamment du jus d'orange pressé frais, mais aussi d'une grappe de raisin, tout ça lorsque c'est la saison. Vous pouvez également, en dehors des fruits, la trouver dans notamment les petits pois ou bien encore les légumes secs. À présent, on va changer de sujet. On va parler du thème sur les frères et sœurs. Est-ce que le fait de grandir sans les frères et sans sœurs, ce que ça peut faire notamment sur le cerveau et surtout le comportement des adultes selon une étude? Eh oui, il faut savoir qu'une étude récente suggère que le fait d'être enfant unique ne serait pas sans conséquences au niveau du cerveau, mais aussi du comportement. Bon, c'est bien connu, dans plusieurs pays du monde, le nombre d'enfants par femme diminue, tant qu'un nombre croissant de couples d'adultes n'ont qu'un seul enfant. Dès lors, se pose alors cette fameuse question, que certains se sont posées, sur le développement de ces enfants en l'absence de frères et sœurs. Si de nombreuses études ont déjà été menées, vous vous doutez, à ce sujet, les scientifiques avouent ne pas avoir toutes les réponses quant aux conséquences de grandir au sein d'une fratrie ou tout seul. Voilà, nos amis chinois, et plus précisément des chercheurs chinois, ont récemment conduit une étude pour mieux comprendre l'impact du fait de cet enfant unique sur le cerveau et le comportement à l'âge adulte. Des résultats publiés d'ailleurs dans une revue spécialisée Nature Human Behavior, la source 1, qui met en évidence des schémas spécifiques au niveau de l'activité cérébrale et des tendances comportementales différentes chez les adultes ayant grandi dans une fratrie comparée à ceux qui ont grandi tout seuls. Car avec l'augmentation mondiale du nombre de familles composées d'enfants uniques, il est donc crucial de comprendre les effets du fait de grandir sans frères et sœurs, qu'ils appellent d'ailleurs GWS pour Growing Without Siblings, sur le cerveau adulte, le comportement, mais également aussi les voies sous-jacentes. Alors les scientifiques, dans ce fameux article, ont rappelé qu'en utilisant la cohorte Jim Jane, nous avons étudié les associations du fameux GWS, le Growing Without Siblings, avec la structure, la fonction, la connectivité, la cognition, la personnalité, mais aussi la santé mentale du cerveau adulte. Chez pas moins de 3000 paires d'individus, avec ou sans frères et sœurs, cela va de soi. Et en comparant ces données entre pères, enfants uniques avec enfants ayant grandi avec des frères et sœurs de milieux proches, les chercheurs ont pu mieux comprendre comment l'absence d'un frère ou d'une sœur va impacter le cerveau et le comportement à l'âge adulte. Ils ont donc trouvé des associations reliant le GWS à une intégrité plus élevée des fibres du langage, à une intégrité plus faible des fibres motrices, à un volume cérébelleux, relatif au cervelet, important pour le contrôle moteur. Plus important à un volume cérébral plus petit et à une activité cérébrale spontanée, frontotemporale plus faible. Pour autant, les scientifiques se veulent toutefois rassurants. Bah oui, quand même, les enfants uniques peuvent ne pas être pénalisés en termes de développement cérébral et de comportement si l'environnement de celui-ci fait qu'ils grandissent en quelque sorte en palliant cette absence de fratrie, par exemple avec l'élargissement de leur expérience, les opportunités sociales, les activités périscolaires, les moments avec d'autres adultes et les enfants, les voisins, les cousins, bref, d'autres personnes. Et puis on va conclure cette émission en revenant sur un thème que j'avais abordé il y a quelques semaines, sur le fait de fumer avant de dormir. On avait notamment vu que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout une bonne idée. J'avais commencé à vous parler des différentes solutions et je souhaitais, je vous l'avais là aussi expliqué, revenir sur le vapotage, car il faut savoir que le vapotage n'est pas plus inoffensif pour le sommeil. Car il est bien moins nocif que la cigarette, certes, notamment d'un point de vue respiratoire, les cigarettes électroniques ne produisent pas les nombreux toxiques générés par la combustion du tabac, ce qui réduit certains risques, notamment respiratoires pour les poumons. Mais cela ne signifie pas que le vapotage soit totalement sans risque, surtout en ce qui concerne le sommeil. Car les e-cigarettes contiennent de la nicotine, elles peuvent entraîner les mêmes problèmes de perturbation de sommeil donc que la cigarette classique. La nicotine qui provient du tabac ou du vapotage stimule de la même façon le système nerveux central. Pour certains fumeurs qui utilisent donc ce moyen de sevrage, vapoter le soir peut effectivement apporter certes un soulagement temporaire en atténuant les signes de manque de nicotine avec l'irritabilité et l'anxiété. Cela peut sembler une solution rapide pour mieux supporter le sevrage, mais il est important de souligner que le vapotage n'est pas la méthode de sevrage la plus efficace. Les études confirment que la majorité des personnes qui se tournent vers la cigarette électronique restent vapoteurs sur le long terme. Donc, deviennent des vapofumeurs, en quelque sorte, en continuant de fumer tout en vapotant. Hein, oui, pas la solution non plus. Alors reste la méthode la plus recommandée pour arrêter de fumer, c'est le sevrage classique, soutenu par une prise en charge, vous le savez désormais, auprès notamment d'un tabacologue, un professionnel qui vous prescrira ainsi notamment les fameuses gommes, les pastilles, les patchs, pour aider à gérer ce manque de nicotine sans perturber cette fois votre sommeil, ni maintenir la dépendance à la nicotine. Il est donc préférable de mettre des patchs correctement dosés en début de journée, la pastille le soir qui peut, par contre, permettre d'éviter le réflexe comportemental de fumer et améliorer ainsi le syndrome de manque, donc le sommeil. Ces substituts contenant de la nicotine peuvent perturber le sommeil. Les patients rapportent souvent faire plus de rêves. La prise en charge peut comprendre aussi des médicaments, de la thérapie, des séances d'hypnose. Les médicaments aussi comme le bupropion ou la véranicline, par exemple, peuvent véritablement réduire les symptômes liés au manque, les troubles du sommeil, même si les patients décrivent souvent des insomnies plus fréquentes. Alors je vous rappelle que pour retrouver cette sérénité, point de vapotage, point de cigarette, rien de tel que de la relaxation, de la méditation, des respirations profondes, du yoga, une activité physique régulière. Bien aérer les pièces aussi, éviter de les surchauffer en hiver. Également penser à manger léger le soir en évitant les aliments. Point de téléphone portable aussi pour le côté d'excitation et éviter tout excitant passé 16 heures, c'est-à-dire plus de café, plus de théine, car ils perturbent eux aussi le cycle naturel du sommeil. Et sur ces bons conseils, on va se quitter pour cette semaine. Restez bien calés sur le 96.1, libertéfm.fr aussi pour le site. Dans quelques instants, c'est la suite de vos programmes. Nous, on se quitte bien évidemment en chanson avec le talentueux et regretté Daniel Balavoine. Tous les cris, les SOS.
Quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit.
À la maison, dans la voiture, au boulot, une seule radio. Liberté FM. Liberté FM.